Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Couvre-feu pour tout le monde à 18h. Cela devrait permettre, selon le gouvernement, de maîtriser encore l'épidémie de Covid-19 en France. Et c'est déjà pas si mal si l'on compare aux voisins européens. En tout cas, l'exécutif ne s'est pas privé de le dire. Vous l'entendrez dans ce journal. Moins de déplacements le soir, mais rien ne change pour les établissements, lieux culturels, restaurants, bars et universités restent fermés. Dans cette édition, nous irons en Irlande, où là, les hôpitaux craignent d'être dépassés. Et puis en Australie, où certains grands médias ne sont plus référencés par Google sur Internet. Notre correspondant nous expliquera pourquoi. Jean Castex étend donc le couvre-feu à 18h à toute la France métropolitaine, à partir de demain samedi et pour les deux semaines qui viennent. Le Premier ministre, en conférence de presse hier, a parlé d'une situation maîtrisée mais fragile, maîtrisée tout de même, comme pour multiplier les messages positifs en direction des Français, Stéphane Robert.
On n'est pas si mauvais que ça. Voilà le message politique qu'a essayé de délivrer Jean Castex hier soir en revenant sur les décisions prises en octobre dernier.
Notre premier choix a été de ne pas attendre pour décider d'un confinement adapté. Notre deuxième choix a été de ne lever nos mesures que progressivement. Je pense sincèrement que notre stratégie a été la bonne. Les résultats nous placent aujourd'hui dans une situation comparative plus qu'honorable en Europe.
Le Premier ministre a poussé la comparaison en citant nos voisins européens qui, après avoir tardé à prendre les mêmes mesures que la France, sont aujourd'hui contraints de reconfiner la population ou de fermer leurs écoles. En France, rien de tout ça, a encore dit Jean Castex.
À l'heure où je vous parle, la situation sanitaire n'exige pas que nous mettions en place un nouveau confinement.
Avant d'annoncer qu'il durcissait tout de même les mesures sanitaires en instaurant pour la France métropolitaine un couvre-feu à 18h pour tout le monde. Le message qu'il a voulu faire passer a donc que si on restreint un peu plus encore les libertés, c'est tout de même moins qu'ailleurs. Et pour prolonger cette autosatisfaction, il a rappelé le soutien apporté par l'État aux acteurs économiques du pays.
La France a fait ce qu'il fallait pour venir en aide aux acteurs culturels, aux entreprises, aux salariés et aux indépendants, au commerce et à tous ceux qui ont subi et qui subissent encore l'impact de cette crise.
Le Premier ministre a donné l'impression hier soir de vouloir conjurer les critiques qui pleuvent depuis des semaines sur l'exécutif pour sa gestion de l'épidémie. Et puis il a souligné l'espoir que représente la vaccination en annonçant qu'on pouvait envisager une sortie de crise progressive d'ici l'été prochain.
Stéphane Robert qui évoquait les mesures économiques pour soutenir les secteurs en difficulté. Les entreprises auront notamment un an de plus pour commencer à rembourser le prêt garanti par l'État, échéance reportée à mars 2022. Elles bénéficieront aussi d'un remboursement de 20% de leur chiffre d'affaires du mois de décembre de l'année dernière. Le protocole sanitaire est renforcé par ailleurs dans les écoles. Plus de tests, 300 000 par semaine et plus de sport du tout en intérieur. Au lycée, on alternera toujours entre présentiel et cours à distance après le 20 janvier. Quant à l'université, les étudiants de première année pourront reprendre leurs cours en travaux dirigés en demi-groupe à partir de la semaine du 25 janvier, avec une jauge toujours limitée à 50%. Le nombre de psychologues va doubler dans les facs. C'est un premier pas, souligne l'UNEF, mais qui avait déjà été annoncé au mois de décembre dernier. La présidente du syndicat étudiant, Mélanie Luce.
Mais en fait, c'est pas une nouvelle puisque c'était déjà prévu dans la circulaire qui est sortie le 20 décembre. Pour nous, c'est largement insuffisant. On n'a pas de réponse à la précarité étudiante, pas de réponse à la détresse psychologique puisque les annonces de création de postes de psy dans l'enseignement supérieur avaient déjà été faites avant les vacances. En fait, on n'a aucune réponse concrète aux problématiques qui sont posées et qui continuent de se poser même depuis les annonces qui ont été faites précédemment. Donc là, on voit bien que tout ce qui est dit est insuffisant et nous, on attend une réforme des bourses, c'est-à-dire qu'il faut augmenter maintenant tout de suite les bourses pour tout le monde, mais il faut aussi augmenter les aides au logement parce qu'il y a un gros problème sur l'accès au logement et ce sont les seules aides qu'on touche, qu'on soit boursier ou non. Il faut donner des chèques santé parce que le problème c'est que même en doublant le nombre de psys, ben, on a des services de santé universitaires qui sont bondés et il faut pouvoir avoir accès à des psychologues en dehors et surtout il faut que tout le monde puisse retourner à l'université, pas seulement les étudiants de première année. Donc on en attend beaucoup plus du gouvernement.
Des propos recueillis hier soir par Hakim Kasmi. La vaccination est la priorité des priorités pendant ce temps. Voilà ce qu'a dit hier soir Jean Castex. Outre les personnes de plus de 75 ans hors EHPAD, les personnes à risque pourront recevoir le vaccin à partir de lundi prochain. Cela représente 800 000 Français. Au total, sur le territoire, il y aura 700 centres de vaccination la semaine prochaine avec un site pour pouvoir prendre rendez-vous à partir de ce matin, santé.fr. Des restrictions et des vaccinations, cela répond aussi à la peur des variants du Covid-19 qui se transmettent plus rapidement, plus facilement. L'Irlande est ainsi devenue cette semaine le pays où le virus se transmet le plus vite au monde, devant la République tchèque et la Slovénie. Si le pic des contaminations semble franchi en Irlande, les hôpitaux toutefois s'inquiètent de ne pas réussir à suivre. C'est un reportage d'Emeline Vain.
Ils n'ont jamais été débordés, mais ça risque bien d'arriver.
Comme Ross, qui vient de se faire opérer du nez, les Irlandais s'inquiètent de voir les hôpitaux se remplir. Les yeux cernés, cette infirmière qui préfère rester anonyme enchaîne sa 7e garde en 7 jours.
5 patients Covid viennent d'arriver. On a déjà 5 services réservés Covid qui sont complets. Les collègues tombent malades les uns derrière les autres. Beaucoup sont déjà en arrêt.
La jeune femme s'allume une deuxième cigarette. Ce médecin, lui, s'estime heureux de ne pas encore avoir été redéployé en réanimation.
Vous risquez vraiment d'attraper le Covid. Mes collègues en soins intensifs sont épuisés, stressés, traumatisés.
Toutes les opérations non essentielles sont annulées. Cette nouvelle vague n'a rien à voir avec les deux précédentes, explique l'infirmière.
Pendant la première vague, c'était inquiétant si on avait 500, 600 cas par jour. Cette semaine, on a atteint les 7000. On est le pire pays du monde. C'est bien, bien pire.
Au printemps, chaque malade a pu être soigné. Les syndicats médicaux craignent que ce ne soit pas le cas cette fois-ci, faute de lits.
La pandémie encore et son effet sur les pratiques culturelles. Faute de cinéma, ce sont les plateformes qui s'en sortent le mieux en ce moment, et notamment Netflix. Le géant américain de la vidéo à la demande annonce d'ailleurs sortir cette année 70 longs métrages. Preuve encore d'une révolution des usages dans notre manière d'être spectateur. C'est l'analyse de Capucine Cousin qu'a pu joindre Bénédicte Robin. Capucine Cousin est journaliste économique, autrice de l'ouvrage Netflix et compagnie, coulisses d'une révolution.
La pandémie accélère un phénomène qui était déjà naissant. On commençait à voir des abonnements aux plateformes de streaming vidéo comme Netflix ou Disney+, qui s'est lancé en Europe il y a environ un an, s'accélérer. Mais c'est vrai que la pandémie a impliqué la fermeture à répétition des salles de cinéma un peu partout dans le monde. Qui plus est, ces fermetures de salles de cinéma sont prolongées. Et donc c'est vrai qu'il y a de nombreux réalisateurs, diffuseurs qui ont dû faire des choix, qui faute de mieux pour sortir quand même leurs films, se sont résolus à les sortir directement sur Netflix ou d'autres plateformes. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui me préoccupe, c'est que les gens prennent l'habitude finalement de regarder des nouveautés, des nouveaux films directement sur leur téléviseur via une plateforme de streaming vidéo. Et surtout, on ne sait pas si les gens retourneront en salle, reprendront l'habitude d'aller en salle, n'auront pas de crainte pour des raisons sanitaires, malgré toutes les précautions qui ont déjà été prises par les cinémas dès l'année dernière. On ne sait pas comment l'écho du système des salles de cinéma va redémarrer cette année. En fait, je veux dire, peut-être qu'il y aura moins de films qui sortiront en salle de cinéma à l'avenir.
Aux États-Unis, avant son entrée à la Maison-Blanche prévue mercredi prochain, le président élu Joe Biden dévoile un nouveau plan de relance d'urgence pour faire face à la crise économique et sanitaire. Plan de 1900 milliards de dollars. En Australie, certains médias n'apparaissent plus dans les résultats proposés par Google sur Internet. Il s'agit, d'après l'entreprise californienne, d'une expérience en Australie, mais elle intervient au moment où le Parlement du pays souhaite forcer les GAFA à payer les éditeurs de presse pour la diffusion de leurs articles. Un bras de fer commence, Grégory Pless.
Les plus grands titres de la presse australienne aux abonnés absents dans les résultats de recherche. C'est la réalité pour à peu près 1% des internautes australiens depuis environ 2 jours. Google est bel et bien responsable. L'entreprise explique vouloir étudier l'impact qu'ont les sites d'actualité sur son moteur de recherche et inversement. Une expérience qui intervient en plein débat au Parlement australien sur un texte de loi qui entend forcer Google et Facebook à partager leurs revenus publicitaires avec la presse. Cette expérience n'a rien d'un hasard pour le professeur Belinda Barnett. Elle a expliqué sur la radio ABC que c'était au contraire une forme d'intimidation.
Ça montre l'énorme influence que Google exerce et que s'ils le souhaitent, ils peuvent faire disparaître les grands sites d'actualité d'Internet. Et l'ironie dans cette affaire, c'est que c'est justement ce que le projet de loi en cours de discussion tente de corriger.
En Australie, Google et Facebook s'arrogent plus de 70% du marché de la publicité en ligne, soit un pactole d'environ 4 milliards d'euros par an. Les médias traditionnels, eux, sont en très grande difficulté financière. Même le puissant groupe News Corp, propriété du milliardaire Rupert Murdoch, a annoncé cette année la suppression de plus d'un millier de postes de journalistes en Australie.
La météo en France, attention à la neige, toujours sur le nord-est aujourd'hui. Ailleurs, le soleil fera de belles apparitions, compté ce matin entre 1 et 11 degrés. Il est 6